Pas un bruit. Et faites attention, je vous l'ai déjà répété 300 millions de fois.
Alors, il serait peut-être le temps de vous parler un peu de Lovecraft en lui-même. Parce qu'on a un petit peu tourné autour du pot pendant toute l'émission. Et là, il serait peut-être temps de vous indiquer les choses à ne pas rater si vous voulez vous lancer dans du Lovecraft. Alors tout d'abord, il faut, mais absolument, c'est la base de la base, lire L'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, c'est une histoire donc, qui a été sans surprise hein, écrite par Lovecraft. En 1928, elle a été publiée tout d'abord dans un magazine qui s'appelait Weird Tales. Et cette œuvre, elle est fondatrice pour le mythe de Cthulhu. Alors, forcément, Lovecraft, il ne fait pas les choses très simples. Hein, tout est très en berlificoté hein, quand il écrit. Donc, ce roman se découpe en trois parties. L'horreur d'argile, le récit de l'inspecteur Legrasse et la démence qui vient de la mer. Hein, la démence qui vient de la mer, je pense que ça vous donne un peu une idée de la direction dans laquelle on va.
Mais c'est surtout qu'en fait, il est tellement fan des titres capillotractés, genre des trucs super longs et qui n'ont pas vraiment de sens.
Oui, puis alors, moi j'adore le contraste entre le récit de l'inspecteur Legrasse et la démence qui vient de la mer. C'est un peu un changement radical d'ambiance. L'Appel de Cthulhu nous raconte l'histoire de Francis Wayland Thurston qui découvre des documents qui ont appartenu à son grand-oncle après le décès de ce dernier, son grand-oncle, le professeur Angel. Et en fait, au fur et à mesure de ses recherches et de la lecture de ces documents, Thurston va réaliser qu'en fait, peut-être que son grand-oncle n'est pas mort accidentellement. Son grand-oncle menait des recherches, notamment autour d'un jeune homme qui faisait encore et encore les mêmes cauchemars et autour d'un bas-relief orné d'une sculpture un peu étrange, une sculpture qui ressemblait à un homme poulpe. Alors, je vais absolument pas vous spoiler l'histoire, bien que souvent avec Lovecraft, quand on connaît un peu son univers, on voit très vite où est-ce qu'il veut en venir, on voit très vite où est-ce que ça va finir. Très souvent, dans les romans de Lovecraft, ça finit très mal pour le héros. Ou ça finit pas. On reste dans un espèce de flou énigmatique où il nous laisse la possibilité d'imaginer l'horrible suite qui pourrait advenir pour ces personnages. Ce livre est essentiel parce que voilà, c'est justement celui-là qui pose les bases du mythe de Cthulhu. Je pense que s'il faut commencer par un Lovecraft, il faut commencer par celui-là. Parce que justement, il y a un peu ces créatures étranges et tout qui peuvent un peu nous donner envie de continuer à lire. Parce que le style, vous allez lâcher. Hein, parce que c'est long, parce que c'est redondant, parce que monsieur, il écrit bien et il se la pète quand même. Enfin, faut le dire. Moi, j'ai eu énormément de peine à lire Lovecraft. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Ou, si vous n'avez pas la patience de le lire, écoutez-le.
Alors, on l'a dit tout au long de cette heure d'émission, je pense que vous commencez à le comprendre, chers auditeurs. Lovecraft est un mythe, son œuvre est un mythe. Il suffit de voir le nombre d'héritiers du panthéon Lovecraft qui existe. Mais comme vient de le dire Jo, Lovecraft, c'est pas facile d'accès. C'est une langue léchée, c'est un contenu recherché. La rythmique littéraire est propre à la rythmique littéraire du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Et il faut pas croire. Il se passe pas grand chose en fait finalement dans Lovecraft. Il y a beaucoup de considérations, beaucoup d'observations, beaucoup de déductions plus ou moins partielles. Comme le disait Jo par rapport à l'appel de Cthulhu, l'idée chez Lovecraft c'est vraiment suggérer de manière à ce que le lecteur fasse une partie du chemin. Donc si vous cherchez un roman d'action, c'est pas dans cette prise de notes de monde imaginaire que vous allez la trouver, et c'est pas non plus chez Lovecraft. Mais si vous cherchez des ambiances un peu torturées, un peu glauques, qui donnent l'impression de moiteur qui vous colle à la peau, avec un mystère qui suinte à travers les murs, Lovecraft est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, moi je vous propose de lire une de ses grandes nouvelles ou mini-romans, parce que ça fait quand même 120 pages, avant de se lancer dans le Necronomicon ou dans l'appel de Cthulhu. Dans cette catégorie, il y a notamment un ouvrage qui est sorti dans les folios 2 euros, donc en plus c'est pas cher, qui s'appelle « Celui qui chuchotait dans les ténèbres ». Toute l'affaire commença en ce qui me concerne avec les mémorables inondations sans précédent dans le Vermont qui survinrent le 3 novembre 1927. J'étais alors, comme à présent, professeur assistant de littérature à l'université de Miskatonic à Arkham, Massachusetts, et amateur passionné du folklore de Nouvelle-Angleterre. Le secret chez Lovecraft, justement, c'est ce personnage clé, celui qui va ancrer l'histoire dans l'horreur. Un personnage qui est éminemment respectable, souvent universitaire, chercheur, digne de foi, et a priori extrêmement terre-à-terre et plutôt incrédule. Mais qui a un tout petit peu d'intérêt pour le culte et le mystérieux. Donc chez lui, il y a la prise pour cette horreur qui peut centrer. Le personnage est la cul en deux chaises, oui.
Bah c'est ça, il y a une prise Cthulhu en fait. Il y a une espèce de déclencheur dans la tête de ces personnages qui sont justement très très ancrés dans un monde scientifique. On a ça aussi dans l'appel de Cthulhu, c'est sa trame de base en fait.
Alors il faut savoir que dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, il n'y a pas de poulpe. Il y a juste une suggestion de poulpe.
C'est bon, je peux le lire.
Oui, tu peux le lire. Ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que ce personnage, comme apparemment dans l'appel de Cthulhu, est embrigadé dans une suite d'événements incroyables qui sont toujours plus ou moins justifiables. Et tout dépend en fait du regard du lecteur à ce moment-là, plus ou moins justifiable. Jusqu'au climax final où on plonge complètement dans l'horreur et l'incroyable. Donc il y a cette volonté du crédible, de l'aventure véridique, qui est renforcée par la structure, qui est partiellement épistolaire, en tout cas dans celui qui chuchotait dans les ténèbres. Et donc ces gens ont écrit des lettres, donc du coup il y a du tangible. C'est un peu cette époque où on pensait que comme c'était dans les journaux, c'était vrai. D'ailleurs, dans ce roman-là, le personnage principal écrit dans les journaux pour s'opposer justement au bruit qui circulerait comme quoi il y aurait des monstres dans les collines du Vermont. Donc C'est un ancrage important, à savoir c'est incroyable, mais c'est censé être vrai. L'autre avantage qu'il y a dans l'épistolaire, qui est utilisé en partie dans ce mini-roman, c'est que ça maintient le mystère jusqu'au bout. Je vous fais quand même un mini-synopsis, parce que pour l'instant je parle un peu dans le vide. Le personnage principal s'appelle Albert N. Villemars, il est professeur à l'université, il s'oppose dans les médias, comme je le disais, aux preuves de l'existence monstrueuse ou extraterrestre, on ne sait pas trop, des collines qu'il y a dans les collines du Vermont, et il reçoit une lettre de Henry Eckley qui dit « Arrêtez », en gros, qui en substance, hein, lui dit « Arrêtez-vous d'écrire dans les médias, vous mettez tout le monde en danger, et surtout vous et moi ». Et étrangement, ce Villemars va croire Eckley, et en tout cas, il croit que Eckley n'est pas fou. Donc il se dit, s'il n'est pas fou, il se passe quand même quelque chose. C'est peut-être pas quelque chose d'irrationnel, mais il se passe quand même quelque chose. Et puis comme Eckley lui envoie en plus des preuves, des enregistrements, des photos, ce genre de choses, il commence à croire qu'il peut y avoir quelque chose. Et du coup, ce personnage se retrouve embarqué dans l'aventure de ce personnage secondaire, jusqu'à se retrouver chez lui dans sa ferme dans les montagnes. Plus on avance dans les lectures des lettres de Eckley, plus on se retrouvera confronté à du bizarre, du dangereux, du glauque, du stressant aussi, parce que le personnage secondaire est stressé. Et donc, c'est cette ambiance qui finalement va créer la surprise à la fin. Que vous dire finalement pour conclure ? Peut-être que il faut lire celui qui chuchotait dans les ténèbres parce que c'est du pur Lovecraft, parce que ça donne une très bonne idée du style un peu chiant et puis de son univers. Et puis surtout, en fait, comme c'est pas très long, comme ça fait que 120 pages, ben c'est assez efficace. Puis au moins, ça vous permet de découvrir sans avoir à vous farcir l'appel de Cthulhu ou le Necronomicon. Donc moi, je recommande aux fans, parce que c'est pas forcément un ouvrage qu'on aura forcément lu de Lovecraft, mais surtout à ceux qui souhaiteraient le découvrir.
Je vais revenir sur Kadath, la cité des dieux des contrées du rêve. Donc Anne nous a fait une magnifique actualité dessus, comme j'en ai parlé à ce moment-là.
Sur les contrées du rêve, en fait, pas sur Kadath. Oui. Pardon ? Non, c'est bon, pardon, excuse-moi.
Donc, effectivement, Kadath fait partie des contrées du rêve. C'est même un peu le chef-lieu des contrées du rêve, vu que c'est la cité des dieux qui se cache dans ce pays, si on peut dire. C'est un peu comme le monde imaginaire de Peter Pan. Ce qui veut dire qu'on y va quand on y rêve, quand on rêve. Et même si on ne rêve pas, elle existe encore. Et elle existe pour tous les autres rêveurs qui arrivent à y accéder.
Et elle existe même si les gens ne rêvent pas. En fait, c'est une co-construction de l'humanité.
Voilà, c'est un petit peu ça. C'est pas très évident d'appréhender les contrées du rêve. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a surtout beaucoup d'hypothèses.
Et puis beaucoup d'écritures. Là, tu nous parles de nouveau d'un ouvrage de nouvelles qui a été écrit par d'autres auteurs, donc c'est réellement le développement de l'univers qui a été créé par Lovecraft.
Là, cette fois, c'est bien centré sur Kadath, donc cette cité des dieux, où il y a les anciens dieux qui sont les dieux de la terre, nos dieux, entre guillemets, mais il y a aussi les autres.
Trop bien, il y a Zeus et Jésus, en fait.
On ne les voit pas. En fait, pendant ces quatre quêtes, qui sont donc considérées comme des quatre quêtes oniriques, qui sont écrites par David Camus, Mélanie Fazi, Raphaël Granier de Cassagnac, qui est le fameux...
Ouh, ça c'est lui que j'aime pas, ça.
Voilà, c'est celui qu'on retrouve, et Laurent Parjois.
C'est des grosses nouvelles, alors.
Ça, ouais, elles sont... En fait, à l'intérieur du livre, il y a encore plein d'annexes qui récapitule les différents personnages, les différents lieux qui ont été visités dans Kadath, ainsi que le bestiaire et les différents autres petites choses qui seraient intéressantes de voir.
Ah, donc c'est un bon guide si tu veux découvrir un peu,
c'est un petit peu ça.
L'univers de Lovecraft. Okay.
Et justement, en fait, ce livre est sorti aussi en novembre. Donc là, celui dont je vous parle est sorti en mai. Mais il y a une autre version qui est sortie en novembre qui s'appelle Kadath, guide de la cité inconnue, qui est avec les mêmes nouvelles, mais qui sont en plus illustrées par Nicolas Fractus. Donc, ces quatre nouvelles ont en fait un fil rouge qui est tenu par un mystérieux narrateur qui s'appelle l'innommé, qui est en fait Raphaël, que tu aimes bien, de Cassagnac.
Mm-hmm.
Ce qui fait que des fois, ce n'est pas évident de s'y retrouver. Cependant, les nouvelles sont... assez sympathique, autant on parle d'une nonne qui devient complètement tarée et qui part dans les contrées du rêve, parce qu'on peut y être physiquement aussi. On peut y rêver et si on passe physiquement dans ces contrées, en général, on devient fou. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à cette femme, Aliénor, qui est en plus l'éternelle enceinte. Et on va vous expliquer tout au long de ces nouvelles.
Ah,
c'est vraiment, 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 vraiment pas de bol. Et les temps de gestation sont très, 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 très longs.
Mais le pire, c'est que ça recommence,
c'est ça.
En fait.
Et je vais pas spoiler le pourquoi du comment, parce que c'est vraiment donné à la toute fin. Et c'est assez poétique quand même. J'ai vraiment trouvé ça vraiment chouette. Sauf que pour moi, malgré tout, Kadath, c'est la cité du rêve, mais on peut aussi y aller par la drogue. Donc il y a plusieurs choses, on va dire, mais c'est aussi pour un univers qui a été créé par Lovecraft, malgré ses quatre nouvelles. C'est de l'horreur, certes, mais très teinté de merveilleux. Il n'y a plus vraiment cette atmosphère de malaise qu'on pourrait retrouver dans d'autres nouvelles, peut-être celles que tu as lues, Anne.
Certaines, oui, justement.
On y parle aussi de Randolph Carter, qui apparaît aussi dans les contrées du rêve, mais en tant qu'avatar de Lovecraft. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord avec Anne, parce que nos deux livres disent pas la même chose.
Ça veut dire que Mnemos n'est pas d'accord avec lui-même. Donc l'éditeur n'est pas sûr. Une fois, il dit « c'est l'avatar », et une fois, ou le l'ego, enfin, comment est-ce qu'on dit, l'alter ego de Lovecraft. Et puis, dans l'ouvrage que j'ai lu moi, justement, il dit qu'en fait, pas du tout, parce qu'on a retrouvé un nouvel ouvrage. Il y a peut-être un côté mythologique autour de Randolph Carter.
Il y a aussi un an qui sépare l'édition des deux livres, un petit peu moins d'un an. Donc peut-être qu'ils ont voulu faire ces livres-là pour l'anniversaire des 80 ans de la mort de Lovecraft, et qu'en se penchant un peu plus sur ce personnage de Randolph Carter, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être ambiguïté et que c'était pas aussi simple que ce qu'on pensait. Peut-être. Donc c'est un livre que je recommande, c'est un livre qui nous fait quand même voyager, il n'y a pas énormément d'action, malgré tout ça reste dans l'univers du Lovecraft, mais comme le dit la seconde édition de ce livre, c'est vraiment un guide de Kadath via ses quatre nouvelles, et ça peut aussi vous faire visiter l'univers des contrées du rêve, qui moi m'ont beaucoup plu. De plus, il semblerait qu'on sache maintenant d'où vient le Necronomicon, ou en tout cas encore une des possibilités du Necronomicon, il semblerait qu'il y ait un de ses rêveurs qui est Abd al-Azrad. Voilà, là Johanna, elle est d'accord. Là, elle est d'accord.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'as donné le bon nom, bravo.
Alors là, peut-être que tu ne seras pas d'accord. Qui a été dans les contrées du rêve et qui s'est fait doter d'une sorte d'homme parchemin vivant qui s'appelle un kitab et où en fait Abd al-Azrad doit, c'est sa mission dans les contrées du rêve, noter tout ce qu'il découvre. Et donc il va parcourir les contrées du rêve et noter sur le kitab. Et le kitab qui est donc un recueil de plein de parchemins qui deviendra ensuite le Necronomicon.
Alors ça m'a l'air pas trop mal pour le Necronomicon, pas trop mal du tout. Faudra le lire, le Necronomicon, pour savoir. Moi, je vous spoilerai pas. Parce que, bon, le Necronomicon, c'est toute une histoire. Alors, si vous avez déjà trouvé compliqué tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à maintenant, accrochez-vous parce que le pire est à venir. Le Necronomicon est un ouvrage fictif. C'est un ouvrage qui, parle du mythe de Cthulhu, mais surtout qui a été inventé par Lovecraft. Lovecraft le mentionne dans plusieurs de ses romans. Il l'évoque pour la première fois dans La Cité sans nom, où justement il mentionne son auteur fictionnel, Abdul al-Azred, selon les prononciations. Je crois que les graphies ne sont pas toutes d'accord, vu l'origine du nom, on peut douter. Il est mentionné à plusieurs reprises dans les romans de Lovecraft. Mais surtout, en fait, Lovecraft mentionne le Necronomicon par le biais des sources qu'il aurait utilisées, ou plutôt que ses personnages auraient utilisées. Tout ça pour faire du Necronomicon un ouvrage crédible. Il le présente comme un livre de culte, de magie, et qui parle de l'histoire du temps des grands anciens. Donc justement, on vous en a parlé, hein, de ces grands anciens. Alors, là où on commence gentiment à rigoler et à se poser des questions, c'est que, en fait, Lovecraft n'a jamais écrit de Necronomicon. Jamais. Il ne fait que le mentionner. Et il l'a tellement bien documenté dans ses textes que certains auteurs réels, comme Robert Howard, mentionnent le Necronomicon dans leur propre roman. Mais mieux que ça, ils commencent à croire en son existence. Plein d'auteurs ont pendant un temps cru que le Necronomicon existait réellement. Alors le vrai Necronomicon n'existe absolument pas. Par contre, suite à sa popularité, il y a eu des parutions de vrais faux Necronomicon, comme le Necronomicon Simon.
Ah, parce qu'après ils sont comme dans la littérature de genre médiévale ou la littérature classique, genre c'est mentionné avec le nom de l'auteur.
Ouais, en fait il y a eu plein d'auteurs qui se sont essayés à écrire des Necronomicon et donc il y a eu plein de versions du Necronomicon selon comment les auteurs l'ont compris, selon quelles sources ils ont utilisées, etc. C'est toujours lié à Lovecraft, c'est toujours dans un même esprit, mais la version la plus importante qui existe et celle qui est toujours rééditée, c'est le Necronomicon Simon. Pas de Simon, c'est Necronomicon Simon. Il est paru en 1977 et il est très, très axé sur l'occulte. L'histoire de l'ouvrage est hyper complexe parce que ce Simon, il a existé. Son histoire, on a du mal à l'établir parce que on a du mal à démêler le vrai du faux, en fait.
C'est un autre Randolph Carter. Au secours !
Voilà, c'est pour ça que j'ai doucement rigolé quand j'ai vu votre petit débat. Hein. Alors, ce qu'on sait plus ou moins, c'est que Simon devait être un évêque orthodoxe, que Simon, c'est un pseudonyme. Un pseudonyme qu'il a utilisé pour éviter les foudres du clergé. En fait, on dit qu'il aurait apporté le Necronomicon aux USA pendant les années 70. Moi, je pense qu'il l'a écrit. Hein, puis que...
Oui, mais oui, ça a un côté pseudo-religieux, genre... ça, c'est le clou du Christ. Ouais, ça, c'est le vrai Necronomicon.
Ah, mais c'est pas approuvé, si ça se trouve.
Non, mais mais c'est hyper intéressant parce que finalement, le mythe s'arrête plus au livre lui-même, mais le mythe se met à toucher l'histoire de celui qui l'a écrit. On n'arrive plus à... On a un bouquin devant les yeux, on se dit, bon bah oui, c'est un bouquin qui est sorti de roman de Lovecraft, donc forcément, c'est une espèce de reproduction d'un grimoire. Ok, on arrive à se dire que c'est bon, c'est que de l'imaginaire. Mais le truc, c'est que quand on touche à l'auteur qui est tangible, réel, qui existe, là, on est nouveau dans du flou et dans du brouillard. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ça apporte du flou et du brouillard à notre propre existence. C'est...
Ouh, ça va trop loin. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est comme si J.K. Rowling n'avait pas écrit les contes de Biddle le Barde.
Non, mais c'est dans le sens où tout d'un coup, eh ben, y a quelqu'un qui existe comme nous, et puis son existence, on n'a pas moyen de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Je trouve ça hyper intéressant.
Si ça se trouve, c'est vrai, et c'est vrai, donc c'est teinté de surnaturel, et peut-être qu'en fait, les grands anciens sont parmi nous,
ouais,
et peut-être
qu'en fait...
Mais toi,
tu t'attends à avoir déballé un Cthulhu de bouche d'égout. Arrête, ça n'arrivera pas. Bref, l'édition la plus récente qui a été faite du Necronomicon, c'est Bragelonne, hein, forcément, sortie en 2012, et en fait, cette édition regroupe les 4 livres de Simon. Donc, les 4 livres portent les noms suivants, donc les non-morts, où Simon nous explique le contexte d'écriture du Necronomicon 30 ans après l'apparition du Necronomicon.
On a encore un symptôme un peu religieux. Hein. Le côté apôtre qui écrit oui. Le Nouveau Testament.
Oui. Ensuite, on a le Necronomicon, qui est le grimoire avec des incantations de la mythologie très sumérienne, babylonienne... Où on nous propose des sorts. Notamment, il y a des sorts pour augmenter les capacités sexuelles. Ça me fait mourir de rire.
Faut lire celui-là.
Voilà. Le troisième livre, c'est le livre des sorts. Donc, en fait, c'est un peu le livre des sorts pour les nuls. C'est des sorts hyper simples pour invoquer Marduk, qui est une figure majeure du panthéon sumérien et babylonien.
Et après, vous pouvez faire comme les princesses. Vous pourrez appeler des pigeons pour faire le ménage chez vous.
Arrête, tu détruis tout le côté
du
truc. Le quatrième livre, donc, c'est les portes du Necronomicon, où là c'est un peu histoire des religions. On étudie les relations entre les mythes et les religions dans le monde. C'est assez sympa. En fait, pas mal de gens ont trouvé ça hyper rébarbatif parce qu'ils s'attendaient certainement à avoir un espèce de vrai grimoire sous les yeux, alors que y a un peu des études, il y a un peu de romans, il y a un peu d'histoire. Enfin, c'est un vrai pot pourri. Après, l'édition de Bragelonne est magnifique. Il y a des illustrations qui pètent. Enfin, c'est joli, ça vaut le coup si vous êtes fan de l'univers d'investir des sous dedans. C'est hyper intriguant et on a presque envie d'essayer de se mettre un peu dans l'ambiance pour voir si on arrive à invoquer quelque chose. Moi, je le ferai pas. J'ai pas envie d'avoir un Cthulhu dans ma baignoire.
C'est justement ça que je voulais te demander. C'est que malgré que tu dis que ce livre n'existe pas, qu'il est complètement fictif, c'est est-ce que tu prendrais le risque d'essayer quand même une incantation ?
Non.
Même celle sur les performances sexuelles ?
Non.
Rires.